Le Rassemblement national saura à l'issue du procès si elle peut se présenter ou non à la présidentielle l'an prochain. Tout de suite, c'est Accent d'Europe.
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Et bonsoir, mardi 13 janvier 2026, il est 18h10, nos invités sont en train d'arriver sur le fil tout juste, donc on va laisser tranquillement s'installer. On a Sidonie qui est partie les chercher, voilà, donc Sidonie va pouvoir nous dire si elle arrive à temps, qu'on va parler avec la médiathèque de la Ranlou à Saint-Barthélemy d'Anjou, de leurs actualités, tout simplement. Et côté THV, on est du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou, vous l'avez bien compris, le théâtre de l'Hôtel de Ville. On va parler du spectacle de la compagnie La Fidélité, le spectacle qui s'appelle 37 Ciel Kaya, et on sera avec Guillaume Gâteau dans quelques instants, le metteur en scène de la compagnie et de ce spectacle-là. Ce sera le 3 février à 20h au THV. Et voilà pour les infos. Pour nos invités de la soirée, on aura aussi la Daronne Anjouine qui est au fond de la salle. Alors, puisqu'on n'a pas nos invités, est-ce que Anaïs, tu veux bien rapidement t'emparer du micro rouge et nous souhaiter la bonne année? Meilleurs vœux, Anaïs.
Merci, bonne année à
tous. Ça va? Ça a été les fêtes?
Trop bien.
Ouais. Tu nous racontes ça dans la chronique ou c'est
pas
on parle d'autre chose?
On parle d'autre chose. Bon. 2026, on commence une nouvelle année, on y va.
Très bien. Et ben on garde un petit peu de suspense pour l'instant et puis je te laisse te rasseoir en fond de salle. On va pouvoir accueillir nos invités tout à l'heure et on aura aussi la minute biodive en fin d'émission avec la LPO d'Anjou. Voilà, Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Il y a une personne que j'ai pas présentée, c'est Kelly, puisqu'elle est au Flash Info ce soir. On fait un point sur les actus à Angers et dans le département.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
C'est encore un coup dur pour les joueuses de l'UFAB qui ont signé ce samedi 10 janvier leur 7e défaite consécutive face à Chartres, 61-70, à domicile. Les joueuses d'Aurélie Bonan sont désormais à la 11e place du championnat avec 18 points et frôlent la relégation. Malgré la venue de deux nouvelles recrues lors de la trêve d'hiver, Sierra Burdick et Victoria Majeko-Dumni, l'équipe peine encore à faire la différence lors des matchs. Ce samedi 17 janvier, nos joueuses affronteront en quart de finale de la Coupe de France l'équipe des Tango Bourges, deuxième du championnat. Nous espérons qu'elles seront vite remontées la pente. Face au Mercosur, les agriculteurs de Maine-et-Loire ne faiblissent pas. Ils affirment, je cite, que le Mercosur, c'est définitivement non. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, la sous-préfecture de Segré en Anjou Bleu et un de ses Leclerc ont été souillés de fumier, de terre, de déchets végétaux, de pneus d'engins agricoles et j'en passe. Ces actes n'ont pas été revendiqués, mais plusieurs images ont été diffusées sur Facebook. L'objectif est d'interpeller les pouvoirs publics et les consommateurs sur les conséquences de cet accord sur l'agriculture française. Les agriculteurs pointent particulièrement un risque majeur de concurrence déloyale entre les produits agricoles français et ceux venant de l'étranger, qui sont aujourd'hui imbattables au niveau prix. Pour les jeunes agriculteurs de Maine-et-Loire, l'accord Mercosur montre l'incohérence des politiques publiques. Ils exigent des efforts importants de la part des agriculteurs, mais proposent en même temps d'ouvrir les frontières à des produits qui ne respectent pas les normes françaises. L'enjeu pour beaucoup dépasse le simple accord commercial. Il touche à l'avenir de leurs fermes et à l'indépendance alimentaire de l'Europe. Pour finir, l'Association régionale des instituts de formation en travail social propose deux nouvelles formations pour devenir conseiller en économie sociale familiale, CESF, ou médiateur familial. Le diplôme CESF est proposé notamment pour les titulaires d'un BTS dans le domaine social et économique. Grâce à ces diplômes, vous pourrez intervenir pour les caisses d'allocations familiales, dans des centres sociaux ou dans des établissements pour personnes handicapées par exemple. La région finance 50 places pour cette formation. La formation de médiateur familial est un diplôme d'état de niveau Bac plus 4 délivré en 18 mois. Mais malheureusement, elle est proposée uniquement sur le site de Rosay, près de Nantes.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Kelly qui peut rester avec nous tout au long de l'émission. Avant d'accueillir nos invités, je vous rappelle qu'hier nous étions avec Marie-Pascale de la compagnie Le Pont d'Ardoise pour nous parler de leur prochain spectacle, leur nouveau spectacle Un père et père de Ray Cooney, et c'est mis en scène par Carole Galisson. Il y aura des dates un peu partout à Segré, Avrier et Angers, alors les 16, 17, 18 janvier, 13, 14, 15 février et 20, 21 et 22 février à Angers. C'est un petit peu flou comme ça, on vous renvoie plutôt vers leur site internet pour en découvrir davantage, lepontdardoise.fr tout simplement. Et maintenant, on accueille nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Amélie.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Ouais, les places de parking sont chères hein, autour de Radio G, donc on vous a accueilli pendant l'introduction, mais c'est bon, tu es bien là avec Aurélie de la médiathèque de la Renloup. Bonsoir Aurélie. On sera avec toi tout à l'heure. On va d'abord prendre par téléphone, parce que nous sommes avec Guillaume Gâteau. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Tu nous entends bien, c'est bon?
Oui, très bien, très bien.
Metteur en scène de la compagnie, enfin du spectacle 37 Sielskaya, je vais essayer de bien le prononcer, de la compagnie La Fidèle Idée que le THV accueille, Amélie, hein, c'est bien ça, le 3 février.
Le 3 février.
À 20h, précisément. On redonnera les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission, bien évidemment. Mais avant tout ça, Guillaume, l'occasion, puisque tu nous fais l'honneur d'être avec nous ce soir dans Topette, bah de parler de ce spectacle qui représente beaucoup pour toi, car il s'agit un peu de ton histoire personnelle, en tout cas familiale. Il s'agit même de ta grand-mère, il me semble. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte sur ce 37 Sielskaya, s'il te plaît?
Ben oui, il se trouve que depuis tout petit, moi je vivais avec une grand-mère que je savais ne pas être française de souche. Voilà, elle avait un accent, il y avait des magazines posés chez elle qui étaient dans une langue que je ne connaissais pas, mais elle répondait jamais vraiment aux questions que je lui posais sur ses origines. Voilà, elle me disait qu'elle était polonaise, qu'elle était partie pendant la guerre, enfin, il y a quelque chose qui était comme ça un peu mystérieux. Et puis ni ma mère, ni mes oncles et tantes n'avaient de réponse à ces questions. Donc un jour, j'ai décidé d'aller moi-même chercher les réponses aux questions que je me posais. Donc je suis parti en quête, seul, comme ça, d'abord en Pologne, puis en Biélorussie, pour retrouver les racines de ma grand-mère, retrouver la famille que j'ai su qu'elle avait perdue pendant la guerre, c'est-à-dire, sa sœur était morte, mais sa nièce, ses cousins, enfin voilà, j'ai retrouvé la famille là-bas.
Alors souvent, on se sent très loin, très détaché de la grande histoire, celle avec un grand H, là on parle de la Seconde Guerre mondiale, hein, si je comprends bien. Toi, là, tu t'es replongé en plein dedans, tu t'es lié en fait très intimement avec cette époque.
Ah oui, bien sûr. Et puis surtout, on découvre que la grande et petite histoire, finalement, ne sont qu'une seule et même chose. Ma grand-mère, elle habitait dans un endroit qui était polonais. Elle est allée dans une ferme de travail en Allemagne parce que les nazis l'y ont emmenée pendant la guerre. Et entre les deux, entre le moment où elle est allée là-bas et le moment où il y a eu la libération, il y a une nouvelle frontière que les accords de Yalta ont mis entre son village natal et l'endroit où elle travaillait. Elle n'a jamais pu retourner chez elle, simplement parce qu'il y a des gens qui ont décidé qu'il y avait une frontière ici. Donc d'un seul coup, comment des gens de la grande histoire ont décidé de mettre un trait entre deux villages, a décidé de la vie de ma mère, a fait qu'elle n'a pas pu retourner chez elle.
Alors, découvrir son histoire familiale, son passé, c'est une chose, le mettre en scène, c'en est une autre. Est-ce que tout de suite, l'idée de mettre cette histoire en scène de cette façon-là, en tout cas, était une évidence, ou alors il y a eu un cheminement supplémentaire?
Oui, c'était pas une évidence parce que c'est quelque chose que j'ai d'abord vécu pour moi, que j'ai vécu pour ma famille, que j'ai partagé avec ma mère, avec mes enfants. C'est quelque chose de très très fort émotionnellement, ce qui nous est arrivé de retrouver comme ça la famille, parce que c'est quelque chose qui se termine bien, hein. Cette famille perdue, je l'ai retrouvée. Mais il fallait qu'il y ait un déclic, et le déclic ça a été lorsque j'ai découvert un auteur qui s'appelle Alexandre Kouchevski, lui-même issu d'une famille russe, d'un échelon au-dessus de moi, dont les écrits m'ont percuté immédiatement. J'ai adoré immédiatement ce qu'il écrivait, les pièces de théâtre, les thématiques qu'il abordait. J'ai décidé de le rencontrer, on a beaucoup parlé, et un jour je lui ai dit, écoute, je crois que vu ton regard sur l'histoire, vu ton regard sur l'enfance, vu ton regard sur la guerre, vu ton regard sur les paysages, il me semble que tu pourrais raconter cette histoire qui est la mienne. Et il a dit, d'accord, banco, on y va.
Alors la raconter, c'est une chose, la mettre en scène, c'en est encore une autre. Du coup, donne-nous un peu à voir, Guillaume, s'il te plaît, sur ce spectacle. En fait, on parle d'une épopée poétique et politique. Alors il y a des messages, bien évidemment. Comment tout ça, visuellement et d'un point de vue comédie, s'est mis sur les planches?
Ah, c'est compliqué à dire. Ce que j'ai vécu là-bas, émotionnellement, est quelque chose de riche, est quelque chose de profond, est quelque chose avec une immense chaleur, avec beaucoup de bienveillance, qui est sans doute quelque chose de pas spectaculaire, mais qui est quelque chose qui m'a rempli dans la vie. J'avais envie que cette chose-là se retransmette au plateau. Donc, on n'a pas travaillé forcément sur le spectaculaire, mais on a travaillé sur la chaleur des lumières, on a travaillé sur voilà le rapport des corps, le rapport des gens entre eux, en bienveillance et douceur. Après, de messages politiques, enfin tout est politique d'une certaine manière. Moi, je ne délivre pas de messages. Simplement, effectivement, j'ai voulu que le spectacle donne à émouvoir le public. Je veux que le spectacle offre des sensations au public qui vient le voir. Et voilà, c'est un récit, c'est aussi une fiction, c'est aussi simplement une histoire que l'on raconte, une fable. J'ai l'impression intéressante, en tout cas les premières représentations nous ont donné à penser que le public était avec nous. Voilà, il y a cette envie de partage et cette envie qu'à un moment donné aussi, les gens se sentent intéressés par cette histoire, parce que finalement les histoires de migration sont universelles. On a tous un grand-père, une grand-mère ou un arrière qui vient d'ailleurs et qui a été d'une manière ou d'une autre déraciné, des fois dans la difficulté, parfois pour le mieux.
Peut-être le regard d'Amélie maintenant côté THV sur la place qu'occupe ce spectacle 37 Sielskaya dans la programmation du coup du THV. Est-ce que toi tu as pu le voir peut-être, Amélie?
Alors moi je l'ai pas vu. Curval est certainement allé le voir. Je sais pas trop tout ce qu'il va voir, mais l'idée en fait pour le THV c'est aussi de programmer des pièces qui sont enfin voilà, qui sont engageantes, qui parlent de la vie, qui parlent des vies, voilà, qui soient belles, qui et la vie, on sait qu'elle est pas toujours toute rose, donc voilà. C'est,
Guillaume, tu nous expliques que la volonté n'était pas de prime abord, en tout cas, de délivrer un message politique. C'est pas ça l'objet central de la pièce. Malgré tout, il y a une résonance incroyable avec l'actualité géopolitique.
Bien sûr. On a répété ce spectacle par exemple à Fouesnant et il y avait là, ils accueillaient des femmes ukrainiennes qui étaient arrachées littéralement à leur terre à cause de la guerre. Ces femmes-là qui venaient, qui avaient tous les âges, je voyais ma grand-mère qui elle a été arrachée à sa terre à 16 ans parce qu'à un moment donné il y a des gens qui décident de faire la guerre. Alors c'est pas un message directement politique, mais effectivement la résonance avec aujourd'hui, voilà, dans le spectacle je crois qu'on entend cette phrase qui est débile, mais qui est « c'est dégueulasse la guerre ». C'est pas normal la guerre. Il y a quelque chose qui est aussi naïf que ça, mais je pense que le spectacle résonne de tout ça.
Et est-ce que des membres de ta famille ont vu ce spectacle? Est-ce qu'ils sont au courant de la démarche que tu as entamée, j'imagine? Quel est leur regard à eux?
Oui, ça a été parce que je suis allé voir tous mes oncles et tantes, je les ai beaucoup questionnés sur ma grand-mère, etc. J'ai fait beaucoup de travail. Bien sûr, ils sont tous venus, et c'est une grande famille, hein. Il y a sept oncles et tantes. Ils sont tous venus à la première de ce spectacle-là. Et non seulement eux, mais aussi j'ai eu l'espèce de joie et de surprise immense de voir la famille la plus proche qui nous reste biélorusse, qui parle pas français, hein, venir exprès pour la première. Et ça a été l'occasion d'une immense réconciliation après 65 ans de séparation entre ces deux familles, la famille de ma grand-mère et la famille de sa sœur qui était restée là-bas. Ça a été un moment d'une immense émotion. Et je sais que depuis, via les réseaux sociaux qui ont aussi du bon, je sais que ma famille reste en contact désormais avec la famille biélorusse. Donc la réconciliation a eu lieu et je pouvais pas rêver de mieux que pour le spectacle.
Guillaume, avant de se quitter, tu expliquais qu'il y avait quand même du positif dans tout ça, que à la fin ça se finissait plutôt bien, hein, si j'ai bien compris ce que tu disais. Est-ce que tu es optimiste par rapport à ces sujets-là, à cette thématique qui est abordée?
Alors dans la vie, ça s'est terminé bien parce que on a retrouvé la famille. Le spectacle, vous verrez, c'est autre chose. Mais bon, c'est un bon, c'est voilà. Je suis un indéfectible optimiste. Voilà, je crois beaucoup dans l'intelligence et la force de l'humain pour se sortir des pièges et des saloperies. Maintenant, effectivement, le constat, si je fais une photo du monde aujourd'hui, ça me demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie pour continuer à être optimiste. Mais voilà, je continue à vouloir la mettre, en tout cas en moi, et puis faire que le spectacle soit aussi là pour ça.
Oui, l'optimisme est plutôt à chercher dans la projection qu'on peut se faire que dans l'image à l'instant T, effectivement.
Sinon, complètement.
On est plutôt penché vers le pessimisme. Bon, en tout cas, pour la compagnie, la fidélité, ce spectacle 37, Sielskaya, Guillaume, qu'est-ce que tu nous recommandes? Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres dates, des tournées, d'autres projets aussi, des à côté peut-être qui sont menés avec ce spectacle avant de se quitter?
Alors on a un nombre de dates qu'on peut trouver sur le site hein, www.lafidelidée.fr. Voilà, il y a d'autres spectacles. On a fait un spectacle aussi qui est en 9 épisodes autour de la saga des Lehman Brothers. Voilà, donc on a quand même pas mal de propositions. En termes de communication sur les réseaux sociaux, on est présent, mais on n'est pas hyper actif. Ça reste un outil qui est qu'on maîtrise pas encore totalement. C'est une vieille compagnie, mais voilà, on peut facilement s'inscrire à une lettre d'information via le site et puis regarder la fidélité sur Facebook, sur Instagram, et normalement vous aurez toutes les informations.
Une compagnie de 1997, l'information que tu m'as donnée tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. On va te laisser vaquer à tes occupations parce que tu es très occupé, on l'imagine. Le spectacle 37 Sielskaya, nous, la date qui nous intéresse, celle dont on va parler dans quelques instants, c'est celle du 3 février à 20h au THV. Et puis, donc, metteur en scène de ce spectacle, Guillaume Gâteau. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir.
Avec grand plaisir. Au revoir à vous.
Nous, on va continuer avec Super Nana de Radio Edit. On fait une pause musicale et on revient ensemble juste après.
Dana Fox, feminine, masculine, you can take it all in you.
Ready or not? Ready or not?
Foxy, Foxy, Dana, Dana. Super, super, Nana, Nana. Foxy, Foxy, Dana, Dana. J'en ai versé des lames de peine, des lames de joie. J'en ai vu dans ce monde des hauts, des coups bas. Mais je reste forte derrière tous mes combats. Car je suis Foxy Dana, ouais, je suis super nana. Car ils ont un amour et un amitié. Mais la vie m'a appris à ne jamais lâcher. Femme debout, reste forte et déterminée. Nous qui restons debout, t'es ça sans pitié. Moi je suis une super nana. Abandonner la dieu, non, non, non. Toi aussi t'es une super nana. On est des nanana malgré le bla bla bla. Moi je suis une super nanana. Abandonner la dieu, non, non, non. Toi aussi t'es une super nanana. On est des nanana malgré le bla bla bla.
Foxy Foxy Dana Dana. Super super Dana Dana. Foxy Foxy Dana Dana.
Appelle-moi Foxy, femme fatale. Douce et sensuelle, mais pas pas péter de balle, ouais. Au fond de moi brûle cette flamme. J'suis une guerrière dans l'âme. J'brise jamais les âmes. Si ça du toi, si tu fais un naufrage, je ne baisse jamais la tête, quels que soient les obstacles. Foxy Dana, really naughty place. Pour les femmes dans ce monde, je calme l'amour et l'unité. Moi je suis une super nanana. Abandonner la dieu, no, no, no. Toi aussi t'es une super nanana. On est des nanana malgré le bla bla bla. Moi je suis une super nanana. Abandonner la dieu, non, non, non. Toi aussi t'es une super nanana. On est des nanana malgré le bla bla bla.
Super Nana de DJ Flozio et Foxadana sur le 101.5 FM.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Nous sommes avec le THV ce soir. Je faisais des signes à Garance pour que chacune d'entre vous ait un micro avec Amélie pour bien parler d'en face. Bonsoir Garance.
Bonsoir.
Toi, tu es une ancienne infiltrée. On va en parler dans quelques instants. Les infiltrés du THV, on connaît le principe. Hein, je le rappelle dans les grandes lignes, mais peut-être Camille, tu peux le faire aussi. Des enfants qui participent à la programmation pour un spectacle, en tout cas dans la programmation du THV.
C'est ça, pour une saison. Et qui participent en fait tout au long de l'année, qui viennent à plusieurs reprises, on va dire à hauteur d'une fois par mois, découvrir les métiers et l'univers du spectacle vivant.
Et derrière tout ça, en plus, ils participent à faire visiter le théâtre, à faire un peu de communication aussi. Il y a des à côté, je crois.
Ouais. En fait, ils voient vraiment tous nos métiers à nous, à l'équipe du théâtre. Donc, effectivement, ils vont organiser et mener une visite du théâtre avec Maud, qui est la médiatrice. Et avec moi, ils vont venir à la radio. Enfin, je les prépare en tout cas pour la radio, pour qu'ils viennent justement annoncer la visite et la présenter et se présenter eux-mêmes. Et puis quoi d'autre ? Enfin, ils participent à des montages techniques, ils font de la cuisine avec Annabelle, qui est la chef, notre chef cuistot.
Peut-être préciser la tranche d'âge aussi. Ils ont
entre 9 et 11 ans.
Voilà, donc c'est quand même pas rien hein, de faire tout ça, d'être impliqué dans le théâtre, même si c'est pour vous juste une partie du travail, pour eux ça représente énormément. Et justement, Garance, tu voulais nous partager un petit peu un retour d'expérience. Toi, tu l'as fait en 2021, ouais. Je me rappelle pas, t'étais venue dans l'émission ou pas ?
Oui, je crois, enfin, c'était vraiment les tout débuts de ce projet.
Ouais.
Et donc on était vraiment la première année, mais c'est vrai que je crois qu'on était effectivement allé à la radio pour enregistrer nos vécus.
Alors là, comme ça, quel souvenir t'en gardes de cette séquence des infiltrés, de cette implication que t'as eue sur quelques mois ?
Bah moi, franchement, j'en garde que du positif, parce que ça a été vraiment super intéressant d'être immergé dans le monde du théâtre. On est aussi allé à Avignon, et c'était vraiment super de pouvoir être dans cet univers du théâtre, être plongé dedans, c'était vraiment super. Donc franchement, je suis très contente, surtout pour l'expérience qu'on peut avoir après en rapport avec le théâtre.
Et à ce moment-là, tu étais en quelle classe ? Tu étais au collège ?
J'avais 9 ans, donc je crois que j'étais en CM2.
Ah oui ?
Que j'entrais au collège l'année d'après.
Et aujourd'hui, tu es en quelle classe du coup ?
Je suis en 3e et j'ai 14 ans. Donc c'était il y a 5 ans.
C'était il y a 5 ans. Et alors, cette expérience-là, est-ce qu'elle a été marquante au point de, aujourd'hui encore, depuis ton parcours à l'école et puis dans la vie de tous les jours, peut-être d'avoir gagné en confiance en soi, peut-être d'avoir un regard différent aussi sur le monde de la culture, ou même une ouverture un peu plus large sur des sujets qui peuvent être évoqués à l'école ?
Oui, mais c'est vrai que j'avais déjà beaucoup d'affinité avec le théâtre parce que mes deux parents étaient comédiens et tout. Mais c'est vrai que, enfin, j'ai appris à connaître aussi d'autres métiers que je ne connaissais pas, et puis aussi pouvoir programmer des spectacles. Et c'est vrai que ça a été très intéressant et que ça m'a aidé aussi avec la communication des gens autour. Mais vraiment, ça m'a vraiment apporté. Du coup, plus de confiance et tout. Et puis en groupe aussi, avec des jeunes de mon âge, c'était aussi bien de pouvoir le faire avec ces personnes-là.
T'es resté un petit peu en lien ou pas avec des infiltrés de ta promo ?
C'est...
Ou les parcours se sont séparés ?
Oui, parce que... Mais en fait, c'est aussi que... on n'habite pas forcément dans les mêmes endroits. C'est vrai que si jamais on aurait pu se croiser, je pense qu'on aurait pu se reconnaître... je crois que j'en ai recroisé il y a pas longtemps au conservatoire, donc qui est juste en face de Radio G. Et c'est vrai que on s'est juste dit bonjour, mais ça fait du bien de faire remonter ses souvenirs à la surface, quoi.
En tout cas, c'est une expérience que tu recommandes, j'imagine, aux prochains infiltrés du THV. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Peut-être ne pas trop stresser pour telle chose, ou peut-être faire attention, profiter, parce qu'en fait, ça passe aussi très vite, j'imagine.
Oui, vraiment, franchement, il faut vraiment s'amuser, parce qu'en fait, c'est fait pour ça, c'est fait pour que les jeunes puissent découvrir tout ce monde, que je trouve personnellement incroyable, hein. Mais du coup, c'est pour ça que vraiment, je vous conseille de profiter, de vous amuser, parce que, en fait, c'est pour ça que, j'imagine que vous avez fait ça.
Et ton projet maintenant, est-ce qu'il est toujours en lien avec le théâtre ou pas ? Ça a eu une incidence aussi à ce niveau-là, cette implication avec les infiltrés ? Tu veux être comédienne, peut-être, régisseuse, programmatrice ?
Oui, c'est vrai que plus tard, j'aimerais beaucoup, devenir, être dans le monde du spectacle. C'est vrai que je suis pas encore tout à fait sûre, mais, oui, d'être comédienne, peut-être aussi un peu dans l'ambiance du cinéma. Je sais pas encore trop, mais je sais qu'en tout cas, ça sera dans des trucs artistiques. Mais du coup, c'est vrai que c'est encore mieux d'avoir ça dans mon CV.
Oui, ça montre en tout cas que tu as déjà une petite expérience. Merci beaucoup, Garance, d'avoir témoigné de ton retour d'expérience, hein, 5 ans plus tard. D'ailleurs, Amélie, maintenant, après 5 ans, parce que ça s'était mis en place il y a 5-6 ans à peu près, c'est ça, les infiltrés?
C'est exactement ça.
Et quel retour vous en faites? Est-ce que vous voyez un impact positif? Est-ce que vous faites, comme avec Garance, des retours, des points plus tard avec les anciens infiltrés?
Alors, les très anciens, on les croise pas forcément. C'est Garance qui nous a sollicité pour faire un stage de troisième. Et on en est ravis. Après, on croise souvent les précédents, en fait, les années précédentes. Donc, eux, ils sont comme chez eux, ils arrivent et je veux participer à l'accueil du public, c'est moi qui scanne les billets, je veux servir au bar, enfin ils sont voilà, ils mènent leur vie, ils vont partout et c'est très chouette de les avoir là et ils viennent nous raconter aussi voilà comment ils évoluent au fur et à mesure des années qui passent. Donc c'est plutôt positif, en fait, tout ça, ouais.
Et normalement, on devrait avoir la promotion 25-26 dans Topette prochainement.
Prochainement, ouais. Et puis, on va bientôt faire un appel à
N+2.
Ouais, c'est ça. Et même, on prévoit encore un autre groupe d'ados, cette fois-ci, mais qui partirait à Chalon dans la rue. Voilà. Pour dire que le projet s'étoffe et ouais, on va essayer d'emmener d'autres enfants, mais plus grands.
Et ben voilà de quoi nous tenir en haleine sur les prochaines informations que nous délivrera Amélie certainement le mois prochain. Tu restes avec nous, Amélie, Garance aussi, évidemment. On a encore un petit peu de programmation à évoquer ensemble du côté du THG, mais on en a beaucoup aussi du côté de la médiathèque de Laurent-Loup. On va faire quelques pas de côté, justement, à Saint-Barthélemy d'Anjou. Mais avant tout ça, on fait un petit crochet par la chronique de la daronne angevine dans Topette.
Bonsoir. Mon dernier enfant va avoir 3 ans. Et franchement, ça se fête. Et pourquoi ça se fête? Parce que qui dit 3 ans dit la fin du postpartum. Oui, oui, le postpartum dure 3 ans. Donc perso, moi, ça fait 10 ans que je suis soit enceinte, soit en postpartum, soit les deux. Bon, clairement, moi, j'en peux plus. Donc je suis ravie que mon fils souffle ses bougies, mais soyons honnêtes, je suis surtout ravie pour moi de sortir de cette période. Alors c'est quoi le postpartum? Ça commence à l'accouchement et ça dure jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Pourquoi c'est si long? Eh bien parce que pendant ces 3 années, pour la mère, il se passe énormément de choses dans son corps et dans sa vie. Physiquement, fatigue intense, manque de sommeil, douleurs, périnée, dos, bassin, cicatrices de césarienne, changements hormonaux brutaux, parfois dépression du postpartum, chute de cheveux, fuite urinaire, montée de lait, engorgement, douleurs mammaires, ah, c'est génial. Donc le corps prend cher, mais c'est pas tout. Il y a aussi le psychique et l'émotionnel. Pleurs, irritabilité, hypersensibilité, anxiété, inquiétude, baisse de confiance en soi, troubles de l'humeur. Vraiment, c'est génial. Et souvent dans une grande, grande solitude. Parce que oui, il y a aussi un choc social et identitaire. Devenir mère, à chaque enfant, c'est une redéfinition de qui on est. La vie de couple change, la charge mentale explose, la pression sociale aussi est là. Être une bonne mère, penser à soi, mais tout gérer. Franchement, c'est hyper compliqué. Et ça se vit souvent dans un sentiment d'isolement, parce que du jour au lendemain, on se retrouve quasi exclusivement avec son bébé, et ça peut être hyper compliqué. Donc moi, ce soir, j'avais envie de mettre en lumière une initiative angevine qui fait pour moi toute la différence. Ça s'appelle les Mama Walk, la marche des mères. C'est une angevine, Leslie Legros, qui est doula, accompagnante périnatale, qui a mis ça en place à Angers. En fait, elle est partie de l'idée qu'on connaît tous maintenant, qu'il faut un village pour élever un enfant. Alors c'est bien mignon, mais le village, il faut se le créer. Donc en fait, les Mama Walk, ce sont des temps gratuits pour les femmes, les mères, les femmes enceintes. On peut se retrouver du coup avec ou sans son bébé. On vient marcher, parler, on crée du lien, on se soutient et on se sent moins seul. Moi, grâce à ces initiatives-là, j'ai rencontré des femmes qui aujourd'hui font partie de ma vie et de mon village. Des femmes qui comprennent sans expliquer. Alors les Mama Walk, c'est une fois par mois. En hiver, le rendez-vous est donné à la maison de quartier du lac de Maine. Au printemps et en été, au beau jour, on se retrouve directement au lac de Maine pour marcher, respirer. Pas besoin d'aller bien, il suffit de venir. Parce que le postpartum ne s'arrête pas à la sortie de la maternité. parce qu'on n'est pas censé tout porter toute seule, et parce qu'entre mères, quand on se tient la main, le poids devient un peu plus léger. Le postpartum, ça ne se traverse pas seul, et ensemble, ça change tout.
La Daronne Angevine sur Topette Radio G qu'on retrouve dans deux semaines. Les fêtes se sont bien passées quand même, Anaïs.
Ah mais très très bien.
Les enfants étaient avec vous.
Les enfants étaient avec nous, pas malades.
Pas malade.
Ça c'est
terrible. Un enfant malade.
Donc voilà, pas malade. Donc vraiment très bien.
Bon, hâte de découvrir le prochain sujet de la Daronne Angevine dans deux semaines. Sinon, on peut te retrouver dès maintenant sur les réseaux sociaux et même découvrir les anciennes chroniques également.
Tout à fait.
On continue avec notre deuxième sujet de la soirée avec toi, Sidonie.
Topette avec Pierre Benoît.
Bonsoir Sidonie, je crois pas qu'on t'ait entendu encore.
Non, pas encore.
Ce soir, tu nous emmènes à la médiathèque de Laurent-Loup avec Aurélie.
Tout à fait, nous recevons donc Aurélie, directrice de la médiathèque de Laurent-Loup, pour nous présenter une programmation riche, variée et ouverte à tous les publics. Bonjour Aurélie.
Bonsoir.
Pour commencer, avant de parler de cette grosse programmation de janvier, on va plutôt présenter la médiathèque de Laurent-Loup à quelqu'un comme si quelqu'un ne la connaissait pas.
Ben oui, ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, Aurélie.
Ben oui, c'est une magnifique médiathèque dans un lieu patrimonial puisque c'est un vieux bâtiment du XVIIe, XVIIIe siècle auquel a été adjoint un bâtiment récent dans les années 2000. Donc c'est très 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 joli, très typique. Il y a des cheminées dans lesquelles on peut s'installer avec des coussins pour bouquiner avec ses enfants. C'est vraiment très agréable.
Le château.
Et c'est dans un parc.
Le château de Poudlard, mais avec une petite extension moderne. Quoi.
Exactement.
Maintenant que nous avons mis au clair comment était la médiathèque de Laurent-Loup, nous allons passer à sa programmation. Parmi tout ce que vous avez proposé, il y a une activité qui a déjà commencé. Il s'agit du English Conversation Club, proposé avec la bibliothèque anglophone. Comment est née l'idée de ces rencontres en anglais ?
Alors, on est déjà partenaire de la bibliothèque anglophone, puisqu'on a des livres que l'on va chercher chez eux pour diversifier notre fonds de livres en anglais. Et cette année, en fait, on a une petite thématique autour des langues étrangères. Et donc, ça a été un partenaire vers lequel on s'est tourné, évidemment. Et c'était une activité que des bénévoles de la bibliothèque anglophone ont l'habitude de faire. Donc, c'est une conversation très simple, c'est pas des cours, hein. C'est vraiment l'idée d'échanger, de prendre la parole en anglais, quel que soit son niveau, et de se lancer à parler une langue étrangère.
Et pourquoi avoir fait le choix justement de la conversation plutôt que d'un cours plus classique ?
Parce que ça correspond plus à ce que l'on fait en médiathèque. Hein. L'idée n'est pas vraiment de donner des cours. Nous, on est vraiment dans du plaisir, dans quelque chose de plus simple en fait.
Et du coup, justement, ça amène du plaisir. Mais comment se déroule cette séance ?
Eh bien, Janice, qui mène la séance, vient avec des sujets. Et puis, on en discute. Chacun peut venir aussi avec ses propres envies. Et le public est très divers, puisqu'il y a des ados, des adultes, des personnes plus âgées. C'est vraiment très, très varié.
Et c'est des discussions qui s'inscrivent dans la durée. Ils ont commencé samedi dernier et continuent jusqu'au mois de juin. Est-ce important de les espacer pour progresser ?
C'est pas du tout l'idée, c'est plutôt de pouvoir y aller. On n'est pas obligé de suivre tous les ateliers, c'est vraiment comme au café, on arrive, si on a envie d'y participer, on y participe. Alors il faut s'inscrire en effet, parce qu'on ne peut pas être 30 pour discuter ensemble, mais sinon il n'y a pas d'obligation de suivre, il n'y a pas de progression à proprement parler. C'est vraiment soi qui, quand on a envie de prendre la parole, on la prend.
Ce n'est qu'une activité parmi d'autres parce qu'il y a aussi la nuit de la lecture, le vendredi 23 janvier de 18h30 à 22h. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce un moment important pour l'année, dans l'année pour la médiathèque.
C'est une fête nationale qui est initiée par le ministère de la Culture auquel les lieux de culture participent. Donc en effet, la médiathèque de Laurent-Loup participe aussi. L'idée, c'est vraiment de proposer des activités qu'on n'a pas l'habitude de voir en médiathèque ou en tout cas dans une convivialité peut-être un petit peu différente puisqu'on ouvre en effet jusqu'à 22h. C'est plein de petits ateliers auxquels on peut participer. On peut même juste venir lire à la médiathèque jusqu'à tard dans le soir et c'est vraiment sympa.
Et sans tout dévoiler, que réserve cette émission 2026?
Alors, il y aura des ateliers d'origami, il y aura des capsules temporelles qu'on pourra créer, on va écouter des lectures, on verra des petits films, on pourra même raconter des histoires à un chien.
C'est vraiment un événement particulier et sans réservation.
Réservation aucune, on vient quand on veut à partir de... On ferme à 18h30 et on ouvre à 18h30, on ferme la médiathèque à 18h30 et puis s'ouvrent tous ces ateliers.
Et est-ce volontaire pour attirer un public plus large?
Ah oui, évidemment, on a toujours envie que plus de gens viennent à la médiathèque. Donc en effet, l'idée c'est vraiment que ça soit simple et c'est quelque chose qui est important à la médiathèque. On essaie toujours de simplifier et les inscriptions et le fait de venir et voilà.
Et pour clôturer cet événement, quel état d'esprit souhaitez-vous transmettre au public pendant cette soirée?
Ah ben c'est que la médiathèque, elle est ouverte à tous. On peut y faire plein de choses. Il y a des livres, mais il y a plein d'autres choses aussi. Il y a des revues, il y a des films. On jouera même, donc voilà.
Le mardi 27 janvier à 18h15, il y a également une présentation du prix Sésame 2026. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce prix?
Alors le prix Sésame, c'est un prix qu'on renouvelle tous les ans, qui est avec le Sésame, donc qui travaille avec les comités d'entreprise et beaucoup de bibliothèques de l'agglo y participent également. Et du département, on est très très actif. Et c'est 10 romans et 8 bandes dessinées qui sont choisies pour l'année. Les auteurs viennent pratiquement tous dans la région, donc c'est l'occasion d'aller dans différents lieux, de rencontrer les auteurs, de découvrir des livres qu'on n'aurait sûrement pas lus. C'est des petites maisons d'édition qu'on choisit, donc c'est vraiment l'idée de pas avoir les best-sellers et les livres les plus lus, mais justement des pépites que vous pourrez découvrir.
Et ce prix a la particularité de laisser les lecteurs voter. Pourquoi ce choix est-il si important pour vous?
Alors c'est l'ADN du prix Sésame, puisque c'est un prix aussi de comité d'entreprise. Donc l'idée c'est vraiment que ça soit les lecteurs qui élisent le meilleur livre parmi les 10 et parmi les BD également qui seront choisis, parce que c'est super de se dire qu'on est acteur aussi d'un prix et qu'on va pouvoir avoir vraiment un poids sur le vainqueur.
C'est un événement plutôt visé pour les adultes et adolescents, mais la médiathèque s'adresse aussi aux tout petits, avec des notes et des mots sur deux dates, le 18 janvier et le 11 avril à 17h. Pourquoi proposer des spectacles dès 0 à 3 ans?
Parce que la lecture, ça commence dès la naissance. Donc, faut absolument mettre des livres dans les mains des enfants.
Plus que des écrans, on est bien d'accord.
Plus que des écrans, évidemment. Et c'est vraiment un outil d'émancipation pour les tout petits aussi. Et c'est une habitude qui permet d'appréhender la lecture différemment. Et c'est extrêmement important. Et Benoît Auger, qui anime ce temps, a un vrai don pour donner envie de lire aux enfants aussi.
Ce temps justement où il y aura des notes et des mots, mêle musique, poésie et son, que peuvent vivre les enfants et les parents pendant cette balade?
Alors, ils écoutent avec grand calme, parce que Benoît a cette force de pouvoir calmer tous les enfants qui sont avec lui. Donc il joue un peu d'instruments, il touche les instruments, ils vont faire des petits gestes, ils vont écouter, ils vont répéter des poèmes, enfin voilà, il anime avec brio.
Et on finit justement par les parents, le jeudi 29 janvier à 20h avec le ciné-débat qui aborde les questions sur la parentalité. Pourquoi choisir ce débat à la médiathèque?
Alors en fait, c'est un partenariat qu'on mène avec le relais de petite enfance de Saint-Barthélemy d'Anjou et le village Pierre Rabhi. Et on s'adresse vraiment aux professionnels et aux parents. C'est des cycles qui ont lieu toute l'année autour de débats, autour de films qui sont les films de Préparons Demain, qui sont des films à la fois d'observation des enfants et puis avec un petit peu de professionnels qui parlent aussi des thématiques, mais qui vraiment questionne la manière dont les enfants sont et dont on est avec les enfants. Et pour le coup, là, c'est sur l'angoisse qu'on a tous en tant que parents de l'environnement qu'on apporte à nos enfants. Donc le biberon qui a des substances nocives, le jouet, et on se pose plein de questions. C'est assez angoissant, faut dire, hein, pour les parents, parce qu'il y a plein d'injonctions qui sont données. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rassurer et de comprendre ce qu'on fait et puis de discuter beaucoup parce que c'est souvent des lieux de discussion entre nous et que c'est vraiment très intéressant. Alors entre les gens qui sont là et puis pour le coup il y aura deux personnes de la PMI qui viendront guider aussi un petit peu les réflexions.
Et quel sera le film projeté du coup pendant cette soirée ?
Eh bien c'est bien On aura de bonne santé et c'est un film de Préparons Demain qui est une association.
Et si vous deviez résumer la programmation de la médiathèque de Renloup en quelques mots, lesquels choisirez-vous ?
Oh là là, diversité pour tous les publics, voilà.
Oui, je pense qu'on peut parler de diversité, effectivement, et de tout public, même s'il y a une petite appétence pour les enfants et les familles, quand même, j'ai l'impression.
C'est vrai, mais il y a aussi plein de choses pour les adultes, ça viendra sur la suite de la programmation.
Ah, c'est pour ça, voilà, elles savent nous tenir en haleine hein, du côté du THV. Je voyais en tout cas Anaïs qui réagissait hein, par rapport à la programmation un petit peu plus orientée parentalité, si tu veux bien t'emparer du micro.
Oui, je m'en parle, tout à fait, je prends le micro. Moi, je suis une grande utilisatrice des bibliothèques et ludothèques de la ville d'Angers. C'est effectivement un lieu ressource hyper riche pour les enfants, faire autre chose que les écrans, leur donner le goût du livre, du jeu. Et donc effectivement, là, je trouve que la programmation, elle est hyper chouette. Effectivement, avoir des spectacles pour les tout petits, c'est hyper intéressant pour nous aussi parents qu'on puisse leur proposer autre chose que bah, quand il n'y a rien, c'est compliqué. Donc non, effectivement, une super programmation.
Le goût du livre au sens propre, hein, parce que les tout petits peuvent manger les livres.
Ah bah bien sûr.
D'ailleurs, faut faire attention, si c'est des beaux livres, faut les tenir un petit peu à distance.
Non, faut les laisser manger les livres. Manger les livres. Moi, je suis partisane de manger les livres. Voilà, d'où j'ai lâché l'affaire.
Vaut mieux dévorer un livre qu'un écran. Ça se digère bien mieux.
Beaucoup mieux.
Merci beaucoup, en tout cas, Aurélie, d'être venue dans Topette ce soir. On se voit le mois prochain, donc, pour la suite de la programmation plutôt adulte. C'est ça. Hein.
Oui.
Bon, parfait. Amélie et Garance, vous êtes toujours avec nous côté THV. Alors, Garance, pareil, tu t'empares du micro. J'imagine que tu as des choses à dire, ou en tout cas que tu aimerais dire des choses. Si on doit résumer ton expérience en tant qu'infiltré et le mot que tu peux prodiguer pour les prochaines générations, les prochaines promotions d'infiltrés qui sont sur le territoire de Saint-Barthélemy d'Anjou.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'était vraiment. Il faut vraiment en profiter de ces moments que vous pouvez avoir. Parce que, je sais que ça peut être vraiment un petit truc, mais c'est vraiment une grande opportunité. Même si moi, je l'ai eu un peu par hasard. Juste mes parents m'ont dit, ah tiens, il y a un truc au THV. Et vraiment, j'y ai passé un an, je crois, dessus. Et vraiment, c'était. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, si vous avez l'envie de le faire, faites-le, lancez-vous.
On n'en sort que grandi, j'imagine. On sort de sa carapace, on apprend un petit peu à découvrir un premier pas vers le monde extérieur, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Garance, encore une fois. Amélie, il nous reste une petite date à évoquer, celle de du risotto soir. De Stuttgart. C'est ce soir. Ah oui, c'est à quelle heure ?
C'est à 20h.
Ah, et ben, il reste à peu près une heure pour. Faut se dépêcher.
C'est ça, c'est maintenant. Et c'est un spectacle qui est un peu particulier parce qu'en fait, on va tout chambouler le théâtre. Voilà, les spectateurs, ils vont rentrer dans la salle. Ça va pas être comme d'habitude les fauteuils comme ils ont l'habitude de voir, mais on est dans une formule cabaret. Donc, on a carrément transformé le plateau en une salle de cabaret avec des tables. Les gens vont venir s'installer aux tables, prendre un verre. Et regardez le spectacle qui est un peu particulier aussi parce qu'en fait, Wilfried Hildebrandt prépare un risotto. Un risotto un petit peu de sa spécialité, c'est un risotto de Stuttgart.
D'accord, c'est un. Vraiment, on va le manger.
Vraiment, à la fin.
On va manger le spectacle. On est vraiment dans le registre culinaire depuis tout à l'heure en fait. Le risotto de Stuttgart, ok. Bon, c'est donc le bar-restaurant théâtre-hôtel de ville.
Ouais, ce soir, c'est un peu ça.
On étend un petit peu les choses. Ok, bon, dépêchez-vous de réserver si vous n'avez pas prévu de repas pour ce soir. Vous pouvez aller au THV, au théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. Le reste de la programmation, si malheureusement ce soir on est indisponible, on peut la découvrir tout simplement sur le site internet.
Tout à fait, nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Même à la médiathèque, ils l'ont aussi en programme. De déposer.
Ah oui, puis au THV, il y a la programmation.
Exactement.
De la médiathèque. Vous entendez plutôt bien, j'ai l'impression, quand même. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer avant qu'on se quitte pour de bon, Amélie, du côté du THV ?
Venez nous retrouver au théâtre, j'ai envie de dire. Prenez le programme et venez vous installer confortablement dans nos fauteuils. Il y a plein de spectacles chouettes à voir.
Et bah, c'est exactement ce qu'on va faire du coup. Merci beaucoup et puis on se dit au mois prochain. Nous demain on sera avec on sera en spectacle aussi côté artistique culturel avec le CNDC. Marion et Suzanne vont nous parler de deux spectacles que le CNDC propose. Je crois que t'as les dates aussi, Denis, c'est les 26 et 27.
Tout à fait, à 20h, 19h et 20h.
Voilà, janvier 2026, oui. Parce qu'on a changé d'année. Si vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas encore au courant, c'est que vous aviez passé un très très bon réveillon, parce qu'on est quand même le 13 janvier. On se retrouve donc demain à 18h10. Prenez soin de vous, à demain, et topette.
Je baigne mon âme dans les flammes infâmes. Le charme est stable, l'idéal femme. Dans nos prairies, va son chasse nos traces. À trop m'étendre, je bois la tasse. À trop m'étendre, je me noie, je m'efface. Tire sur les corps, sa force, c'est comme un dolor. La rivière carnivore vomit nos sorts. Morsure haut de gamme, alligator. Solitaire, vivace, navigateur. J'ai pris mon cœur pour un moteur. Quand la brise atteint les fourchères, quand le froid me le rempire. J'ai pris des heures pour des lueurs. Quand la brise atteint les fourchères, quand le choix me le rempire. Les plus maigres tous comme une secousse. L'écume de tous qui m'éclabousse. Dans nos herbiers on colle et on collectionne. Des cœurs séchés dans des papiers. Super typé, super caillé. J'ai trop pleuré, rivière salée.
Furieux, mais je vais pas chialer. J'ai pas foutre le feu. J'ai peur de me brûler. Je crois plus à demain. Et c'est réciproque. Je sais pas d'où ça vient. C'est moi ou c'est l'époque. Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride. C'est pas la main verte. Je trouve que tout est con. Rien ne tourne rond à parler autour. Mais je tiendrai bon si je touche le fond. Je ferai demi-tour. Ouais, je sais ça craint. J'ai le cœur chagrin et la tête sous l'eau. Je cherche le ciel bleu, mais j'en bave un peu quand j'ouvre les journaux. Ouais, laissez-moi vivre dans mon bateau ivre qui t'a déprimé. Je veux des foules en liesse et de la tristesse dans la même journée. Une méchante larme fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, c'est pas la main verte. Je trouve que tout est con, rien ne tourne rond à parler vautour. Mais je tiendrai bon si je touche le fond, je ferai demi-tour. Une méchante larme a fait dans mon âme une plaie ouverte. Je me sens sec et vide comme une terre aride, j'ai pas